Remercier tous les conférenciers d'avoir participé à ce séminaire qui, sur une notion qui n'est pas simple. Et aussi tous les participants, en particulier ceux des cours du matin. Je sais très bien qu'il y a là un effort particulier et que je me devais de signaler. La difficulté de ce type de séminaire, et nous le ressentons depuis les derniers séminaires en particulier, c'est le fait que différentes approches sont analysées par rapport à une notion de base à travers des intitulés dont, d'ailleurs, le président de séance nous donnera récapitulation tout à l'heure, à travers des intitulés différents, mais que ce ne sont pas forcément les mêmes participants qui assistent aux analyses elles-mêmes. D'où l'intérêt et aussi la difficulté de la séance de clôture que nous allons commencer maintenant. Ira, ça ne va pas ? Bon, vous avez quand même deviné ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire d'où la difficulté de ce type de synthèse, étant donné qu'elle s'adresse en partie à ceux qui ont participé aux analyses elles-mêmes, mais aussi en partie à ceux qui n'étaient pas aux analyses escalitées, si j'ose dire. Et c'est pourquoi il me revient la tâche d'essayer à grands traits de brosser une synthèse des articulations principales qui ont été évoquées dans les études à proprement parler, ce que je ferai tout à l'heure. Je voudrais, avant de céder la parole au grand Rabbin Shushana qui parlera le premier, parce que d'autres obligations m'appellent, excuser en particulier le Rabbin Bernheim, qui nous avait prévenu il y a assez longtemps qu'il était pris à ce moment, et d'autre part aussi Mme Kriegel, dont nous venons de recevoir un message nous disant qu'elle est souffrante. Je vais immédiatement passer la parole au grand Rabbin Shushana. Ensuite, pendant une demi-heure, peut-être moins, j'essaierai de brosser à grands traits les thèmes principaux qui ont été évoqués. Puis, Joël complétera ce qu'il a complété de son propre exposé. La majeure partie des assistants y ont d'ailleurs participé tout à l'heure. Et vous aurez immédiatement la parole. Je crois que la partie la plus importante de cette table ronde, ce sera l'échange que nous aurons ensemble. Je passe donc la parole au grand Rabbin Shushana. On entend mal, c'est mon micro qui ne marche pas. C'est... Ah, c'est le haut-parleur.
Il marche très très mal.
Peut-être que mon micro fonctionne mieux.
Dans ce cas, ça marche.
Ah, alors, c'est grave.
Bien, je tiens à m'excuser de devoir partir, mais je pensais que notre séminaire finirait plus tôt. Je voudrais simplement rappeler un autre aspect de la Teshuvah. Et qui fait l'objet de prières. Tous les jours dans nos prières, nous disons « Ramène-nous, ô notre Dieu, vers ta Torah ». Et on ne peut demander pardon sans connaissance. Si nous ne savons pas la définition du droit, la définition du bien et du mal, il est impossible de faire teshuvah. Et c'est la raison pour laquelle le seul crime du juif est de ne pas apprendre. Il y a une nécessité absolue pour chaque juif qui est conscient de sa place dans la société, d'être à l'affût de la volonté de Dieu pour essayer de lui faire plaisir. Tout à l'heure, en parlant d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, j'ai explicité l'amour de Dieu comme étant un élan vers Dieu, mais je n'ai pas dit ce qu'était la crainte de Dieu pour le judaïsme. Il y a des personnes qui ont peur de manger des champignons. Ils ont peur des champignons vénéneux. En fait, ce n'est pas du champignon qu'ils ont peur. Ils ont peur de mourir, ils ont peur pour eux. C'est une peur égoïste. Il y a une autre peur qui est celle d'une femme qui voit la chambre dans laquelle se trouve son bébé en flammes. Elle a une peur panique. Elle se précipite pour sauver son enfant. C'est une crainte extraordinaire sans pareil. Mais il ne peut pas y avoir de test d'amour plus grand que cette démarche de la femme qui risque sa vie pour sauver autrui. Lorsque pour nous, chez nous, nous parlons de crainte de Dieu, en hébreu, Yirat HaRoumemout, la forme la plus belle d'amour, de crainte de Dieu, il s'agit d'avoir peur, de déplaire à Dieu, de lui faire de la peine. Donc, pour nous, l'amour, la Teshuvah passe d'abord par une conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je répète, l'organisation de notre vie doit se faire dans une démarche d'amour total, dans une conscience de responsabilité collective et répéter sans cesse que nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Chacun a payé sa place, il est vrai, mais prétendre que parce que j'ai payé ma place, j'ai le droit de creuser un trou sous mon siège est une hérésie et un risque considérable, parce que le trou que je perce ne me concerne pas tout seul, il concerne la société tout entière, tous ceux qui sont embarqués sur ce même navire risquent de sombrer. Et c'est pourquoi la teshuva consiste essentiellement à colmater les brèches, partout où il y en a. Je ne pense pas qu'il faille encore ajouter à ce discours, sinon une invitation à la réalisation. Je terminerai simplement en disant que jamais le mot teshuva n'est utilisé toute seule. Dans Pirkei Avot, nous disons une heure de teshuva omar sim tovim, une heure de retour et de bonnes actions sur terre vaut mieux que tout le bonheur de l'autre monde. Et une heure d'exaltation dans l'autre monde dépasse en intensité tout le bonheur de la terre. Et c'est-à-dire, ce n'est qu'ici, sur terre, que nous pouvons faire teshuva. Mais la teshuva pour nous, ce n'est pas simplement une réflexion. J'avais dit une réflexion philosophique, mais je ne veux pas choquer, ce n'est pas une réflexion, c'est quelque chose qui débouche sur un comportement teshuva ou ma'asim tovim. Dans l'autre monde, ce n'est plus le monde de l'action. C'est ici qu'il faut faire le point et organiser notre avenir, et sachant que dans l'autre monde, c'est impossible. Quant à l'intensité de bonheur, quel que soit, si l'on pouvait faire la somme des bonheurs de tous les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à sa fin, eh bien, cela n'atteindra pas en intensité une heure de bonheur dans l'autre monde. Alors, nous sommes là sur Terre, il faut profiter du temps et faire en son temps et en son lieu ce qu'il y a à faire.
Bien, j'ai demandé au Rav Ben Shoshana qu'après la synthèse générale, il me donne l'autorisation de tenter de répondre aux questions qui lui seraient adressées. Je crois qu'il a accepté. En tout cas, nous avons un adresse talmudique. Apalpi chez Nokan, Kvodokan.
Shaliach Adam Timothée.
Yapé. Bien, je passe maintenant la parole à Joël pour un complément de l'exposé de tout à l'heure, et ensuite je tenterai cette synthèse.
Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de certaines personnes si certains termes ou thèmes les ont choqués. Voilà. Je voudrais citer deux passages du Talmud Berachot à propos précisément de la teshuvah, ou l'absence de teshuvah, ou le fait que l'on puisse choquer, choc à choc. Dans le Talmud Berachot, il y a une discussion entre les rabbins officiels et un Talmud Racham d'envergure peu commune, à qui on reprochait de ne pas aller le samedi matin à la prière. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit, je les laisse entre eux. Pendant que eux prient, moi j'ai autre chose à faire, j'étudie. Et dans le Talmud, on dit, il a manqué de Rachamanut. Il a manqué de l'armée du salut. La miséricorde. Mais on n'a pas condamné ce rabbin. Et le texte se trouve toujours dans les éditions. L'édition du Talmud n'a pas été expurgée à cause de lui. Deuxième rabbin. Il était tellement beau, disait-on, que lorsqu'il mettait son bras dans une chambre obscure, elle éclairait la chambre. Et on se demandait, il était avec ses amis et il pleurait. Et un rabbin lui demande, mais cours, pourquoi pleures-tu? Mais il dit, je regarde cette beauté et je pense qu'un jour je mourrai. Et il était très malade. Alors, un peu comme dans Job, on lui a dit, mais si tu souffres, c'est peut-être que tu as fait une faute. À quoi il a répondu, moi, faire une faute? Mais peut-être que tu n'as pas été enseigné, étudié assez la Torah. Moi, j'ai pas assez. Peut-être que Dieu t'éprouve comme un père éprouve ses enfants. Et non, je n'accepte pas. Et peut-être que tu seras récompensé plus tard. Alors à quoi il a répondu, Lo Issourin velo Sraran. Je ne veux ni des épreuves, ni de la récompense des épreuves. Point final. Point final, c'est moi qui ajoute. C'est pas dans le Talmud. J'ai terminé.
Joël vient de citer un rabbin J'en citerai un autre pour illustrer toujours le thème de la Teshuvah. Il s'agit du maître de Rabbi Meir, qui s'appelait Elisha ben Avouya et que l'on a désigné sous le nom de Acher. Rabbi Meir suivait son maître à pied le Shabbat alors que le maître allait à cheval. Et il lui disait, Rabbi, reviens, dans les deux sens du mot, reviens vers la ville, il ne faut pas dépasser les limites permises, et fais tes chouvas. Et le maître lui dit, j'ai entendu une voix derrière le rideau céleste, la Horea Pargod, qui, paraphrasant un verset de la Bible, Shuvu Banim Shovavim, revenez les enfants, vous, enfants rebelles, c'est une exhortation qui est faite à tous, sauf à Aher, sauf à lui. Et par conséquent, je sais que Dieu refuse ma Teshuvah. Et c'est la raison pour laquelle il a refusé de faire Teshuvah. Et alors, les Hasidim, étudiant ce texte, disent, il y a eu une erreur d'appréciation de Elisha ben Avouya, car sachant que Dieu n'était pas prêt à recevoir sa Teshuvah, il se trouvait être la seule personne au monde à pouvoir faire un cadeau somptueux à Dieu, absolument désintéressé. Il aurait dû dire à Dieu, sachant que tu n'es pas prêt d'accepter ma Teshuvah, je fais quand même pénitence. Faire pénitence pour attendre quelque chose n'est pas très noble, mais le faire uniquement parce que c'est ce qu'il faut faire, en point c'est tout, par appréciation de notre devoir, est infiniment enrichissant. Excusez-moi, bonsoir.
À ce propos, il y a une phrase à propos de cette histoire, « Kolma shomer lecha ba'al habayit ase chut mise » ne sort pas.
Avant qu'ils nous le disent.
Bien, merci. Bien, et bien maintenant je me rends compte que j'ai une tâche assez difficile étant donné la densité et le nombre des thèmes qui ont été évoqués et étudiés pendant cette semaine, y compris d'ailleurs cet après-midi. Et c'est pourquoi je vais me borner à brosser à grands traits vraiment par rapport aux intitulés de ce séminaire, un certain nombre des idées forces qui ont été évoquées et peut-être ajouter l'exégèse d'un texte pour récapituler un des moments, à mon sens, les plus importants de cette réflexion que je vais rappeler. Il s'agissait de la conférence qui nous a rassemblés mardi soir sur l'intitulé suivant, « Retour à Israël, retour à la Torah, opposition ou convergence ?» Je vais rappeler très brièvement pourquoi ce sujet a été choisi, et je ne me cache pas que j'étais un de ceux qui l'ont demandé. C'est parce que, indépendamment du caractère très important d'une réflexion, je ne vais pas dire académique, parce qu'elle est éternelle, permanente dans l'étude des textes, mais une réflexion, disons, désincarnée de la réalité immédiate. Je crois que nous avons le devoir, lorsque nous vivons des occurrences sociologiques ou tout simplement historiques, dans le sens le plus banal du terme, d'y réfléchir en relation à nos sources. Et donc, à propos de ces études, il y a toujours trois moments. D'une part, on se renseigne dans la tradition éternelle qui, une fois qu'elle est écrite, inscrite, s'inscrit, si j'ose dire, sur un écran d'éternité, parce que la vérité, une fois atteinte, rejoint l'éternité. Le deuxième moment, une réflexion aiguë, lucide, précise sur l'état de l'existence, l'état du problème dans la réalité. Et puis, en troisième moment, une tentative la plus modeste possible, parce que les contemporains n'ont jamais assez de recul pour cette liaison, ce lien entre la vérité et la réalité immédiate, d'un essai de regard des textes d'après l'existence et de regard de l'existence d'après les textes. Et quand je dis les textes, il ne s'agit pas d'érudition, il s'agit de ce qui a été pour Israël, pour notre peuple, pour notre tradition, l'âme même de notre vie et pas seulement de notre pensée. Et cela dure 4000 ans. Et donc, on ne peut pas ne pas être pris d'un sentiment de modestie devant l'entreprise, mais je crois qu'on n'a pas le droit de se dérober à ce devoir, en particulier donc par rapport à la notion qui nous occupe. Il est indéniable que nous connaissons des expériences de tshuva, de retour, de revenir, de repentir, de redevenir, tous les mots sont exacts lorsqu'on prend le problème dans son envergure exhaustive, cela n'est pas possible à l'homme, mais en tout cas dans sa globalité,
et à une échelle que nous avons peut-être peu rarement connue dans notre histoire. Le temps contemporain, et cela n'est pas seulement vrai pour notre société, c'est un phénomène de civilisation contemporaine, est un temps où les tendances du retour aux sources, comme on dit, je me souviens d'un livre qui a paru en Amérique, c'est écrit par un noir, et dont on a fait un film, je ne sais pas prononcer l'anglais, mais je crois que ça se prononce Roots, les sources, il me semble, qui a fait beaucoup d'impact, en particulier pour la société israélienne, et puis pour les non-occidentaux, pour les non-blancs, on pourrait dire, dans le vaste monde. Et les deux phénomènes me semblent très liés, je l'ai signalé. La société juive connaît un mouvement de tchouva, et c'est à indexer, à relier, à une tentative de récupération de la mémoire, et pas seulement de la mémoire, comme nous a dit l'autre soir Mme Kriegel, aussi de l'histoire et de la tradition. Ce sont trois catégories qu'il ne faut pas confondre, mais qui les trois sont importantes, parce que peut-être on manque de perspectives d'avenir. Cela nous a été enseigné par nos maîtres à l'université, et je ne pourrais pas vous citer de nom, c'était pour moi il y a assez longtemps, à propos du temps de la Renaissance. À partir de la Renaissance, on voit que l'Occident, l'intelligentsia occidentale, cherche à se brancher sur une mémoire qui a été la mémoire de la Grèce et de Rome. Et c'était déjà le signe qu'elle avait perdu sa propre mémoire. Et donc, il nous apparaît, en tout cas, ça a été la manière dont personnellement j'ai vécu ce problème pendant de longues années d'expérience, d'études et aussi d'expérience d'éducateur, si on peut dire cela entre guillemets, qu'il y a deux courants de ce retour à notre identité profonde qui, dans beaucoup de milieux ou dans beaucoup d'occurrences, encore une fois, semblent non seulement se contrarier mais se combattre. Et lorsqu'on dit « Hazara Bitshuva », mouvement de Hozrim Bitshuva, mouvement de la tchouva par rapport à notre histoire globale, massivement perçue, quelle que soit l'équation individuelle de détail de chaque personne, et là il faut nuancer considérablement et ne parler que de soi-même, eh bien il y a deux courants, l'un qui entend la tchouva à notre identité comme, et parfois exclusivement, le retour à la Torah, le retour à la pratique d'une vie juive authentique, orthodoxe et orthopraxe, à la fois, ce sont les mots qu'avaient, les termes qu'avait employé le rabbin Bernheim dans sa communication de critique de l'orthodoxie en relation à la tchouva. Et je n'y ferai pas trop allusion parce qu'il fallait entendre ces analyses et je n'oserais pas tenter de les reproduire à sa place. Donc, je ne parlerai que des thèmes communs pour l'assemblée de cet après-midi. Eh bien, un premier courant, que la tchouva à notre identité, c'est la tchouva à la Torah. Avec une sorte de limite, de frontière exclusive des autres dimensions de notre identité. Et puis, le deuxième courant, c'est, pour en dire en mots simples, le courant qu'exprime en tant que mouvement sociopolitique le sionisme, le retour d'Israël sur sa terre. Et j'avais signalé, je crois que c'est là qu'il faut y réfléchir, au fait que très souvent ces deux retours sont exclusifs l'un de l'autre et semblent se présenter de façon parfois impérialiste des deux côtés comme excommuniant l'autre ou comme, où il suffirait de redire exclusif l'un de l'autre. Et là, nous avons un problème d'existence grave. Et puis, nous avons donc un problème de retour aux sources dans le sens noble. Qu'est-ce que notre tradition dit de cela? Et c'est pourquoi j'ai étudié avec vous, avec ceux qui étaient présents mardi soir, un texte de la Torah, le chapitre 30 du Sefer de Harim, auquel d'ailleurs aussi, pour inverser le verset 12, si je me souviens bien, Joël a fait allusion tout à l'heure, c'est un chapitre qu'il faut étudier dans l'ensemble, qui, il faut le rappeler, est l'objet de bibliothèques entières de livres d'études et de commentaires dans la tradition rabbinique depuis le temps de la Torah, et ça fait longtemps, mais qui peut nous servir de phare dans cette question si difficile à éclairer, parce que, précisément, cette source, dans son discours, dans son verbe, dans ses versets, entremêle les deux projets, en y indiquant les étapes d'ailleurs, de façon absolue et absolument évidente et incontournable. Si je pouvais trouver un adjectif plus fort, je l'emploierais, indéniable, irréfutable.
et aucune argutie d'exégèse polarisée, d'exégèse projetée de ses propres options et de ses propres opinions, ne pourra contourner la clarté du texte. Ça avait été, je vous invite donc à étudier ce chapitre 30 du Deutéronome, du Sefer Devarim, et qui se trouve dans la paracha de Nitzavim. Voilà donc un des moments qui, je crois, était important de ce rassemblement de réflexion autour de cette notion de la Tshuva. Et j'ai quand même perçu, à travers les différents conférenciers qui nous ont tous donné des communications remarquables, c'est dommage que nous n'ayons pas encore les moyens, très rapidement, chaque fois un séminaire est terminé, d'en faire un livre. Mais enfin, c'est en train, je ne sais pas combien de temps le train prendra pour entrer dans la gare, mais c'est en train. Enfin, c'est un rêve. Et tous les vrais rêves, j'ai appris ça de mes maîtres, finissent par réaliser, s'ils sont vraiment des rêves, même avec des détails, je cite ce que dit Dvarim Betelim, comment on traduit cela, même s'il y a des Dvarim Betelim, donc vous avez compris en tchécoslovaque, en chinois. Oui. Donc. Et alors, malgré tout, il faut quand même signaler que cette étude, qui me semble centrale, je reviendrai non pas sur le chapitre 30 de Dvarim, mais sur un texte du Rav Kook qui fait allusion au même problème, cette tension entre ces deux retours qui est extrêmement inquiétante pour non seulement l'état actuel, présent, de la société juive et israélienne, mais pour l'avenir, et doit être quand même éclairée par une définition des catégories que nous employons. Tous les conférenciers... j'ai pas fini ma phrase de tout à l'heure, j'ai remarqué qu'effectivement les conférenciers semblaient être pris, moi y compris, je suppose, dans ce conditionnement de l'option univoque d'un des deux courants, en faisant allusion à l'autre, bien entendu, mais simplement par allusion. Ça m'a beaucoup frappé. Donc je crois qu'on remettra ça en jeu dans la discussion de tout à l'heure. Les définitions de catégories, c'est qu'à la limite, et nous avons vu à travers toute cette semaine combien le vocabulaire français devrait faire appel à ses richesses de nuances pour employer 4, 5, 6 termes différents pour recouvrir le terme de tshuva. Mais deux catégories fondamentales, plus une troisième, si vous voulez, la tshuva repentir, repentance, comme on dit en français, lorsqu'il s'agit de la tshuva, qui consiste à revenir à l'innocence de la conscience telle qu'elle se connaissait avant la faute. Est un enseignement de la halakha et pas seulement du midrash qui est très important dans notre tradition parce qu'effectivement la possibilité de la tshuva est spécifique centralement dans notre tradition. Beaucoup de conférenciers l'ont signalé et en particulier le grand rabbin Shoshana tout à l'heure. La deuxième catégorie c'est la tshuva retour mais dans le sens simple du terme. Et je reprends une des expressions de mardi soir peut-être. Si, d'après ces analyses, et il y a des sources derrière, bien sûr, l'espace était l'espace de l'éloignement, le temps, c'est le temps du retour, et qu'il y a une signification métaphysique, ontologique, fondamentale, profonde, à cette force que nos textes, notre tradition nomme la tshuva, avec tous les problèmes de sémantique, de linguistique, et d'implication et d'harmonie, de signification et de connotation que cela implique, et c'est pourquoi les matins nous étions occupés à l'étude d'un texte très important qui est celui de Orot HaTshuva du Rav Kook. Et le Rav Kook dévoile qu'indépendamment de la première catégorie, la réponse en tant que repentir, en tant que revenir dans l'innocence d'avant la faute, et la deuxième catégorie, le retour, eh bien, cela renvoie à une force profonde, métaphysique, ontologique, je le répète, quelle que soit l'hypertrophie des mots, qui est le moteur même de l'existence des mondes. Et, bien entendu, Orot HaTshuva, qui mériterait donc de faire partie de Orot HaKodesh, si j'ose dire, plus que cela même, se base non seulement sur les sources talmudiques, midrashiques, mais surtout sur les sources de la Kabbalah et du Zohar en particulier. Et j'aurais voulu, mais j'en aurais pas le temps, traiter d'un des textes fondamentaux du Talmud auquel il a été fait allusion. Bimkom Sheba'alei Tshuva Omdim Tzadikim gmurim enam omdim. J'ai le texte sous les yeux, mais je sais que cela me prendrait trop de temps. Je vous invite à l'étudier à la fin du chapitre 5 de la Maseret de Brachot. Mais c'est une machloket entre Rabbi Abuya, me semble, et Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, une machloket est une controverse. Rabbi Yochanan enseigne, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les Baalei Tshuva. C'est-à-dire, et c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan, je répète, toutes les prophéties du monde des béatitudes, de la fin de l'histoire du monde, les temps messianiques, ne concernent que les repentis, revenants, les Baalei Tshuva. Le monde à venir lui-même, après le temps dit de l'époque messianique, Aïn Lorata. Et Rabbi Yochanan cite un verset des prophètes, Isaïe, si je me souviens bien, Elohim Zulatrasela. Le monde à venir, aucun œil ne l'a vu. Ce qu'ont vu les prophètes, c'est le temps messianique, et le temps messianique, paradoxe apparemment, l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est pour les Baalei Tshuva. Et la Gemara dit, et c'est en controverse avec un enseignement de Rabbi Abuya, et Bimkom, chez Baalei Tshuva Omdim, Tzadikim Gmurim Enam Omdim, certains disent, mais ce n'est pas la source du Talmud exactement, Enam Yecholim La'amod, à l'endroit où les Baalei Tshuva se tiennent, les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. Indépendamment de tout ce qu'on peut apprendre des drachot, des interprétations, pour choisir ce terme pour traduire dracha ici, sur ce sujet, je voulais signaler, mais malgré tout, il faudra que je vous le dise, parce que je ne sais pas exactement si c'est Rabbi Abuya. Vous me prêtez une minute. Fait de corriger. Et on cite surtout la deuxième opinion. On a l'habitude de citer cela, là où les Baalei Tshuva se tiennent, les justes parfaits ne peuvent pas se tenir pour dire l'excellence du niveau de vertu d'un Baal Tshuva, et cela est justifié, ne serait-ce que pour la raison suivante, et qui a été signalé aussi en passant par le Rabbi Shulchan tout à l'heure, c'est que celui qui revient, et qui revient vraiment, revient plus que ce qu'il était parti. Il ramène un mérite supplémentaire d'avoir réussi cette performance, cette chose extraordinaire, d'avoir inverti le démérite en mérite. Il a un acquis, un plus. C'est le mystère, dans le langage kabbaliste qu'avait cité le Rav dans les cours du matin, le Rav Kook, le mystère du Or Chozer, de la lumière qui revient avec un surplus de lumière, alors que le rayon de lumière émis par la source n'avait pas ce surplus de lumière du rayon réfléchi. J'espère que les termes sont tout de suite ou après.
Non, sur ça exactement. Je crois que, oui, je suis sûr, que Moshe Cordovero, dans le Pardes Rimonim, insiste beaucoup sur ce problème de la lumière réfléchissante, etc.
Réfléchi. Et d'ailleurs, pas seulement le Ramak, le Pardes, mais l'ensemble de la tradition, ici du Zohar en particulier. Et je reprends donc le fil de ce rappel. On a l'habitude donc de citer la pré-excellence des Baalei Tshuva, mais on oublie ce que pourrait signifier l'enseignement de Rabbi Yochanan. Alors, très rapidement, je voudrais vous donner une lecture de ce passage de la Gemara, chapitre 5 du traité de Brachot, en introduction au texte du Rav Kook sur le problème essentiel que j'ai cité tout à l'heure. La contrariété de ces deux expériences, toutes deux authentiques, a priori, de retour à notre identité, sans que nous n'ayons nécessité d'employer un vocabulaire d'ordre politique. Je ne sais pas s'il existe un dialogue dans le sens noble du terme au niveau politique, parce que l'engagement politique est une passion, et on ne dialogue pas de passion à passion, on émet des messages.